Bonsoir. Comme elle a dit, je m'appelle Daniel, je suis l'un des pasteurs ici. Et on va continuer dans la série de Genèse. On a cette prédication et la prochaine prédication. Et après, on va terminer ce grand livre de Genèse avant l'été. Es-tu déjà monté à Fouvière un jour, un matin, l'après-midi et en fait, tu arrives au sommet pour voir Lyon et tu vois rien. C'est dans le brouillard, tu vois même pas le vieux lion, tu vois même pas le crayon. Quelquefois, ça m'arrive. Et quelques heures plus tard, ou même quelques jours plus tard, tu reviens. Et le ciel est bleu, tu vois le crayon, tu vois tu vois Mont Blanc, tu vois toutes ces montagnes derrière. Et c'est incroyable. Juste en quelques heures, quelques jours plus tard, toutes les choses changent. Imagine que ta seule image de Lyon, c'est que tu passes par Fouvière un jour quand il n'y a que le brouillard. Pourrais-tu imaginer? Et ton image de Lyon, c'est ça. En vrai, il y a des jours où la vie, c'est un peu pareil, n'est-ce pas? On marche. Et on voit l'avenir et tout est flou, comme si tu étais au sommet de Fouvière et tu vois rien de tout. Mais il y a quelque chose de différent pour nous en tant que chrétiens, en tant que chrétiens pèlerins. Même si la plupart du temps on avance, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui nous attend, mais on continue, on persévère. On a une promesse claire pour notre destination finale, n'est-ce pas? Lorsqu'une personne choisit de suivre Jésus comme leur sauveur et Seigneur, il lui indique clairement qu'elle vivra avec lui pour toujours dans l'éternité. Dès ce moment, elle reçoit une nouvelle identité, elle reçoit une nouvelle naissance et il est avec nous pour toute notre vie. Il est là avec nous, dans sa présence, et ça nous aide à avancer son royaume sur cette terre. Jusqu'il revient. Cette promesse faite aux pèlerins change notre façon de voir la souffrance. C'est ce qu'on va voir ce soir. Cette promesse faite aux pèlerins change notre façon de voir la souffrance. La semaine dernière, Sylvain nous a parlé de ce moment où Joseph est en train de parler avec ses frères et il a entendu Judas, qui a dit, « Prends-moi. » Judas, le gars qui a vendu Joseph comme esclave, maintenant Judas dit, « Prends-moi et pas mon petit frère Benjamin. Prends-moi comme la substitution. » Et Sylvain a bien expliqué pourquoi ça, c'est une belle image de nous, de qui est notre Christ, qui est notre sauveur, qui est notre substitution pour notre péché. Cette belle image. Mais maintenant, on arrive dans le texte où Joseph va révéler un peu son vraie identité. Donc, on va commencer en Genèse chapitre 45. On a trois chapitres. On va regarder quelques textes dans chaque chapitre. Donc, c'est versets 3 à 8 et c'est page 34 dans vos Bibles si vous voulez regarder ensemble. Donc, Genèse 45, verset 3. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie? » Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui qui vous avait vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous me permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Pourrais-tu imaginer? Quand Joseph leur dit, je suis Joseph, puis il demande, mon père est-il encore en vie? Il a demandé plusieurs fois, comment va ton père? Mais maintenant il dit, comment va mon père? On comprend qu'il soit complètement sous le choc, étonné. En fait, ils sont même peut-être troublés, on voit verset 3. Ils ne savent pas, est-ce que ça c'est de bonnes nouvelles ou est-ce que ça c'est de mauvaises nouvelles? On voudrait bien partir et maintenant on voit que toutes ces choses, c'est dans la main de quelqu'un qu'on a vendu comme esclave il y a quelques années. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je suis Joseph, votre frère, verset 4, celui que vous avez vendu pour l'Égypte. Mais au lieu de chercher à se venger, Joseph fonde en larmes. Sa réaction montre que Dieu a profondément changé le cœur de Joseph pendant cette souffrance et ça nous aide même aujourd'hui. D'abord, Joseph adopte la bonne attitude. Ce qu'on voit dans le verset 5. S'il y a une personne qui aurait peut-être la raison d'être en colère ici, c'est Joseph, n'est-ce pas? En portant, non seulement il choisit de laisser tomber cette colère, mais il dit aussi à ses frères, ne pas être fâchés entre vous. Entre vous. Depuis plusieurs années, ils vivent avec le peur de famine. Ils vivent avec le peur de mourir de faim. Et maintenant, ils ont devant la personne qu'ils ont vendue comme esclave. Ensuite, Joseph voit plus loin que sa propre histoire. Verset 5, il dit à ses frères, « Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous sauver la vie. » Dans cette scène, Joseph n'est pas centré sur lui-même, il n'est pas même abordé la question de sa propre famille. Il voit plus en plus et il comprend que Dieu était à l'œuvre au milieu de toute cette souffrance qu'il a vécue. Et qu'il voit que par cette souffrance, il va être le bien pour beaucoup et pour plusieurs peuples. Joseph est convaincu que cette œuvre de Dieu va aussi continuer à bénir sa propre famille et tous ses peuples pendant la famine. Puis Joseph voit aussi que l'épreuve n'est pas encore terminée. Qu'est-ce qu'il a dit, verset 6? Il a dit que il reste encore 5 ans. On a déjà vécu 2 ans, mais ce n'est pas encore fini. On ne peut pas encore célébrer tous ensemble. C'est chouette, cette réconciliation, mais encore il y a du travail à faire. Joseph ne pense pas pour autant que toutes les souffrances étaient derrière eux. Mais cette guérison dans leur relation va sans doute les aider à tenir jusqu'au bout, pendant la fin de cette famine et que le pays retrouve sa fécondité. De plus, Joseph voit que Dieu est en train d'accomplir son projet de salut. Verset 7, il explique qu'il était envoyé avant ses frères pour vous permettre de subsister dans le pays. Donc, je suis là pour vous. C'était dit d'un reste que Dieu garde que personne, un reste que Dieu sauve, revient souvent dans la Bible et on voit déjà dans la Genèse, on voit Dieu se mettre à part un peuple qui il va traverser avec ce peuple jusqu'il revient. Enfin, Joseph voit aussi la main souveraine de Dieu dans tout ce qui lui arrive. Verset 7, il dit que Dieu les gardera en vie pour une grande délivrance. Donc, il est toujours là parce qu'il y a quelque chose d'autre à faire. Et c'est cette grande délivrance. Cette délivrance au milieu de la famine, oui, mais aussi il y a une grande délivrance dans l'Ancien Testament qu'on va voir dans le livre de Exode, la sortie d'Égypte. Donc Joseph peut donc dire à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. verset 8. Il comprend que ça, ce qu'il a vécu sur la terre, était lié au projet de Dieu. Donc, après, Joseph donne ses consignes à ses frères, expliquer comment il peut retourner en Canaan, il peut chercher leur papa. Il sait que Jacob hésitait peut-être le moment qu'il entend que, OK, maintenant, tu dois partir la terre promise et tu dois arriver en Égypte. Mais même si les frères sont encore sous le choc, Joseph les prend dans les bras comme un signe de réconciliation et pardon. Eux, les frères, ils avaient rejeté et mis de côté. Mais maintenant, Joseph accueille tous ses frères. Ça, c'est une autre image pour nous. On voit clairement la main souveraine de Dieu à l'œuvre dans la vie de Joseph. Le pardon de Joseph ouvre maintenant le chemin. Quelle belle image de la grâce. Le Fils bien-aimé accorde une faveur imméritée à ses frères égarés. Si je suis honnête, quand je passe par des moments difficiles, souvent mes problèmes prenaient tout l'espace autour de moi. Je ne voyais plus rien d'autre chose autour de moi, et souvent c'est difficile même de garder la bonne attitude, de garder la bonne perspective pour l'avenir, parce que je vois que les choses devant moi. La souffrance a une façon particulière d'affiner notre foi en Dieu. Elle nous place dans cette tension dans la vie que, oui, il y a un Dieu souverain, non pas parce qu'il est la cause de la souffrance, même pas qu'il a permis la souffrance, mais qu'il utilise la souffrance pour accomplir son plan de Dieu. Ça, c'est une chose qu'on vit dans cette tension qui est difficile pour chacun de nous qui est des pèlerins dans cette vie. J'ai partagé avec le conseil cette semaine que cette année, il me semble, c'est une transition pour notre famille, c'est une transition pour l'Église, mais aussi pour beaucoup d'entre vous. Plusieurs parmi vous ont vécu des épreuves très difficiles cette année. Pourtant, ce qui m'encourage dans votre foi, c'est que vous êtes toujours là. Vous continuez à persévérer. Vous continuez à avancer, même quand tout semble flou devant toi et devant vous, même quand tout semble dans le brouillard, vous êtes toujours là et vous continuez à avancer. Ma prière pour notre famille, pour vous et pour notre Église, c'est que cette saison de souffrance nous rend plus fortes, comme on voit avec Joseph, qu'elle fasse grandir notre confiance en Dieu, notre dépendance en Dieu, et pour son Église, et qu'il nous rapproche davantage de lui. Amen. Mais il y a quelque chose de plus dans ce texte. Désolé. Je pense souvent en mettre la place de Joseph. Mais en réalité, la comparaison la plus juste, pour chacun de nous, que nous sommes comme ses frères. Comme eux, on ne peut pas échapper à la réalité de notre péché, ni ses conséquences. On a besoin de prendre au sérieux notre besoin de pardon et de réconciliation. La vérité, c'est qu'on est des pécheurs, nous aussi. Et tout comme l'amertume et comme la jalousie qui ont poussé les frères à vendre Joseph, ces mêmes choses peuvent nous pousser à blesser les autres par nos actions, par nos paroles, par nos mots. La bonne nouvelle, c'est que l'Évangile nous montre Joseph comme Jésus comme un Joseph nouveau et meilleur. Jésus comme un Joseph nouveau et meilleur. Il nous pardonne. Il nous accueille et il nous ouvre un avenir qu'on ne mérite pas. Quand on se retrouve face à notre péché, notre première réaction, c'est souvent la peur, comme ses frères de Joseph. Mais au lieu de fuir, on doit reconnaître nos fautes et chercher le pardon et la repentance. Et parfois, il faut attendre de l'humilité pour recevoir ce pardon que a donné, n'est-ce pas? Mais quand quelqu'un nous fait de mal, ça arrive. Quand on passe par la souffrance, ça arrive, ça va arriver. On doit résister à l'envie de garder notre pardon pour nous. On peut pardonner parce que Jésus nous a pardonné, premièrement, gratuitement, et qu'il nous a montré comment aimer et pardonner à notre tour. Amen. La deuxième partie, c'est cette promesse faite aux pèlerins change notre façon de voir la souffrance, ça c'est vrai, mais aussi pour arriver à notre destination éternelle. Ça, c'est le pèlerin pour nous. Jean chapitre 46 et Jean chapitre 47, c'est pages 35 à 36. À la fin du chapitre 45, les frères font ce que Joseph leur a demandé. Ils ont retourné en Canaan, ils ont partagé toutes ces choses avec leur papa. Ils expliquent que Joseph était encore vivant. Pourrais-tu imaginer le choc de Jacob quand il a entendu ça? Et après, il a vu tous ces chariots qui sont arrivés avec tous ces cadeaux. Dans le chapitre 46, Jacob part pour l'Égypte, heureux d'apprendre que Joseph est vivant, son fils bien-aimé, même s'il quitte la terre promise. Genèse chapitre 46, verset 1. Israël, partit donc avec tout ce qui lui appartenait, arrive à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit, « Jacob, Jacob !» Israël répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. Je descendrai moi-même avec toi en Égypte et je t'en ferai moi-même remonter. C'est Joseph qui te fermera les yeux. » Donc, Jacob part pour l'Égypte avec tout ce qu'il possède et il offre un sacrifice à Dieu. J'imagine parce qu'avec toutes les choses qu'il a entendues, son fils bien-aimé est encore vivant. Après avoir célébré la bonté de Dieu, il reçoit une vision, verset 2. Et comme il avait fait pour Abraham, Dieu se révèle maintenant à Jacob et vient recentrer son regard. D'abord, Dieu montre à Jacob qu'il le connaît personnellement. Ça, c'est important, que Dieu connaît Jacob. Il l'appelle par son nom, verset 2. Ça nous rappelle que Dieu de l'univers, Dieu qui a créé ce monde, ne l'ignore pas. Il le connaît vraiment. Et vous pouvez imaginer que ça, c'est important pour ces premières lectures de cet livre. C'est les personnes qui sont sorties de l'Exode. C'est les personnes, Moïse a écrit ce livre pour ces gens-là qui pensent que Dieu a bien oublié. Qu'il a bien les oubliés. Mais en fait, Israël, ce n'est pas un peuple oublié. C'est un peuple que Dieu a choisi pour accomplir ses promesses. Ensuite, Dieu rappelle à Jacob qui il est. Le Seigneur souligne le lien entre Jacob et Isaac et ce qui renvoie aux promesses de la bénédiction faite à leur famille. Verset 3. En d'autres mots, Dieu invite Jacob à se voir comme lui le voit. C'est encore notre invitation aussi. Puis Dieu donne une direction claire à Jacob. Il lui dit ne pas avoir peur de descendre en Égypte. Vous pouvez imaginer toutes les choses qu'il a déjà entendues d'Égypte. Joseph, qui était en esclavage, il y avait toutes ces choses qui se passaient avec ses enfants là-bas. Et maintenant, il dit, viens avec nous. C'est chouette là-bas. Malgré tout ça, Dieu appelle Jacob à avancer dans la foi. Il va quitter la terre promise. Toutes les choses qu'il a fait pour des années pour arriver à cet endroit-là, maintenant il va la quitter. Mais il dit quelque chose, verset 4, qu'il promet que Joseph sera à ses côtés au moment de sa mort. Son fils bien-aimé, mais même que tu es en Égypte, Joseph sera à ton côté. Donc j'imagine ça, c'était aussi un encouragement pour lui. Enfin, Dieu donne à Jacob un vrai but. Il lui promet de faire de lui une grande nation. Verset 3, cela montre que même en Égypte, Dieu va continuer à travailler et Dieu sera présent avec lui même qu'ils sont en Canaan, ou ils sont en Égypte. Donc le séjour d'Israël en Égypte, ce n'était pas un plan B. Ce n'était pas comme si Dieu essayait juste de sauver la situation après une famine imprévue. Non, la famine faisait partie de son plan pour conduire Israël en Égypte à accomplir ce qu'il avait annoncé depuis longtemps. Et Dieu promit aussi à Jacob d'être avec lui et lui assure sa présence en Égypte, mais aussi un jour qu'il va remonter en Canaan. Quand Dieu accompagne Jacob sur la route vers Égypte, c'est en gros la même présence qu'on a maintenant grâce à l'Esprit, le Saint-Esprit. Dans la Nouvelle Alliance, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est comme une avant-première de la fin de l'histoire de salut à notre destination éternelle. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expérimenter en toute plénitude, mais c'est quelque chose qu'on expérimente aujourd'hui jusqu'à le moment qu'il revient, où on va vraiment expérimenter en toute la plénitude. Et tout le monde vivra avec Dieu. Donc Jacob et ses fils arrivent en Égypte et ils rencontrent le Pharaon. 47, verset 7. Joseph fit venir son père Jacob et la présenta au Pharaon. Jacob bénit le Pharaon. C'est bizarre parce que Pharaon, c'est plus grand que Jacob, mais Jacob bénit le Pharaon. Le Pharaon dit à Jacob, « Quel âge as-tu ? » Jacob répondit au Pharaon, « Ma vie errante dure depuis 130 ans. Elle a été courte et mauvaise et n'est pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres. » Jacob bénit encore le Pharaon et se retira de devant lui. Joseph installa son père et ses frères. Il leur donna une propriété en Égypte dans la meilleure partie du pays, dans la région de Ramsey. Conformément aux ordres de Pharaon, Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, ainsi qu'à toute la famille de son père, en tenant compte du nombre d'enfants. Donc le Pharaon demande à Jacob quel âge il a, et Jacob décrit sa vie comme un pèlerinage. Et dans sa réponse, il reconnaît que sa vie sur cette terre, marquée par la chute, a été à la fois courte, à la fois fragile et difficile. Ces mots résument toute la douleur qu'il a traversée pendant toute sa vie, la mort de Joseph, la famine, l'emprisonnement de Simeon et peut-être la peur de perdre Benjamin aussi. Donc, tous ces expériences dans sa vie. Mais le Pharaon renouvelle sa promesse de protéger sa famille et de leur donner la meilleure terre du pays. Et je pense qu'on peut facilement rater pourquoi ça c'est important. Genèse chapitre 15, versets 13 à 14, Dieu avait dit à leur arrière-grand-père d'Abraham, « Tes descendants seront étrangers dans un pays, Égypte, qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans, ce qu'on va voir entre ce texte jusqu'à Exode. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Ça, c'est l'Exode. Même si Jacob appréciait l'abri provisoire de tout ce qu'il a reçu de la Pharaon, son cœur aspire à quelque chose de plus, une demeure céleste. Comme Jacob, on vit comme un étranger, comme un pèlerin sur cette terre, mais notre cœur espère à quelque chose de plus grand. Et grâce à la promesse de Jésus, on va arriver à notre destination éternelle. Jésus change notre façon de voir la souffrance pour bien arriver à notre destination éternelle. Dieu envoie Joseph en avance pour préserver un reste de peuple et importer une délivrance. De la même manière, Jésus promit lui aussi d'aller préparer une place pour les siens. Tout comme Joseph donne du pain de ses frères affamés, la mort et la résurrection de Jésus apportent le salut et la vraie nourriture. Jésus est notre source de vie. Il est notre pain à ceux qui sont spirituellement pauvres. Joseph est présenté comme le fils bien-aimé de son père, rejeté par ses frères et vendu comme un esclave. Il finit pourtant élevé à la droite de Pharaon. De la même façon, Jésus est le fils bien-aimé de Dieu, rejeté par le fils d'Israël qui complote pour le faire mourir. Mais il s'est abaissé jusqu'à devenir serviteur avant d'être élevé à la droite de notre Dieu. Et tout comme Dieu s'est servi de la souffrance de Joseph pour accomplir un bien plus grand, il s'est aussi servi de souffrance de Christ à la croix pour ouvrir un chemin de délivrance pour nous. Dès qu'on commence à bâtir notre vie autour de quelque chose ou de quelqu'un d'autre que Jésus, on finit par se perdre dans la brouillard de notre chemin et de notre vie sur la route. Mais en vrai, Jésus, c'est comme ce bon phare, ce bon vieux phare qui nous guide. Et il change notre identité, que ce n'est pas juste qui nous guide, mais on devient son lumière. Il est toujours là. Grâce à ce qu'il a fait sur la croix, sur la résurrection et son ascension, qui nous ouvre le chemin, même dans la souffrance. Il me semble que la souffrance nous révèle plutôt à quel point nous avons besoin de lui. Ça révèle pourquoi on a besoin de Jésus. Ce n'est pas dans ce qu'on gagne dans notre vie, cette terre, que l'on s'épanouit vraiment. Il me semble souvent, c'est dans ce qu'on accepte de perdre pour devenir la personne qu'il voudrait en devenir. Pour devenir la personne qui nous appelle à être en lui. C'est en apprenant à dépendre davantage de sa grâce et de sa miséricorde et que l'on grandit et qu'on découvre la vraie richesse et le vrai profondeur de son grâce et une vie avec lui. Jésus change notre façon de voir aujourd'hui et même d'expérimenter un petit peu, un devant-goût de tout ce qu'on va vivre dans l'avenir avec lui, dans notre destination éternelle. Je voudrais vous inviter à prier. Et puis, on va prendre la Sainte-Seine. Prions.